Extrait des chroniques du Hortan. Les marches du devoir. J'ai passé ma vie à gravir les marches de l'escalier du devoir. Petite, mon devoir était de bien apprendre mes leçons, d'être une enfant sage, de ne pas décevoir mes parents. Dans le secondaire et à l'université, mon devoir a été de continuer à bien travailler, de devenir quelqu'un de brillant et de capable, de ne pas décevoir la société. À partir de mon doctorat, mon devoir est devenu plus concret. J'avais désormais la responsabilité de contribuer au développement des lanceurs de fusées, de créer des engins plus fiables et plus puissants pour transporter des hommes et du matériel en orbite terrestre. Quand j'ai intégré l'agence de renseignement planétaire, j'ai eu pour devoir d'imaginer l'envoi d'une sonde dans l'espace à une année-lumière de notre planète pour qu'elle croise la route de la flotte des envahisseurs trisolariens. Cette distance était 10 millions de fois plus grande que la distance maximale que pouvaient parcourir les lanceurs sur lesquels j'avais jusqu'ici travaillé. Après quoi j'ai reçu une étoile. Dans la nouvelle ère, celle-ci m'a apporté des responsabilités que je n'aurais jamais imaginées. Je suis devenu porte-épée, et mon devoir a été de maintenir la dissuasion de la forêt sombre. À y regarder aujourd'hui, il est peut-être exagéré de dire que j'ai tenu le destin du monde entre mes mains, mais j'ai de toute évidence déterminé l'orientation historique prise par les deux civilisations. Puis mon devoir s'est complexifié. J'ai voulu greffer des ailes à l'humanité pour qu'elle s'envole à la vitesse de la lumière, mais j'ai dû renoncer à ce choix pour éviter une guerre. Je ne sais quelle part je tiens dans ces catastrophes et dans la destruction finale du système solaire. Et sans doute ne le saurais-je jamais. Mais je suis sûr d'avoir joué un rôle, ou du moins que mon sens du devoir a joué un rôle. Me voici à présent au sommet des marches de l'escalier du devoir. Il me faut assumer ma responsabilité à l'égard du destin de l'univers. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à qui incombe ce devoir, mais nous y avons notre part. Et c'est un devoir encore plus inconcevable que tous les autres. J'aimerais dire à ceux qui croient en Dieu que je n'ai jamais été l'élu, aux matérialistes que je n'ai jamais créé l'histoire. Je ne suis qu'une femme ordinaire qui n'a malheureusement pas pu suivre le chemin de vie d'une femme ordinaire. Le chemin que j'ai suivi a été celui d'une civilisation tout entière. Nous savons maintenant que l'itinéraire de chaque civilisation est le suivant. Elle s'éveille dans un berceau étroit. Elle en sort d'un pas mal assuré. Elle s'envole de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et elle finit par se fondre avec le destin de l'univers. L'ultime métamorphose de toute civilisation intelligente consiste à devenir aussi grande que ses pensées. Grâce au système de contrôle de l'univers 647, Intellectra ouvrit la porte du petit univers sur le grand. Cette dernière s'engouffra rapidement dans le grand univers en quête d'un monde habitable. Les messages que pouvait envoyer la porte au petit univers étaient cependant limités. Elle ne pouvait par exemple transmettre aucune image et devait se cantonner à fournir un avis global sur l'environnement exploré. Un nombre compris entre -10 et 10, correspondant à l'indice d'hospitalité de l'endroit. La survie était possible uniquement dans les environnements dont l'indice était supérieur à 0. La porte du petit univers exécuta plus de 10 000 bonds dans le grand univers. Après 3 mois d'exploration, elle n'avait trouvé qu'une seule planète possédant un indice d'hospitalité de 3. Intellectra concéda que c'était sans doute le meilleur résultat qu'ils obtiendraient. Mais vous devez savoir qu'une planète avec un indice de 3 est dangereuse et loin d'être accueillante, leur dit-elle. Nous n'avons pas peur. C'est là que nous irons, annonça résolument Chung Sin, une décision approuvée par un hochement de tête de Guan Yifan. La porte apparut dans l'univers 647. Comme celle que Chung Sin et Guan Yifan avaient vue sur Saphir, c'était un rectangle au contour brillant. Elle était toutefois bien plus grande, probablement pour rendre plus facile le transfert de matière vers le grand univers. Au moment de son apparition, la porte ne communiquait pas encore directement avec le grand univers et toute substance pouvait donc la franchir sans que rien ne se passe. Intellectra modifia les paramètres de la porte, de sorte que la matière qui passerait désormais à travers disparaisse du petit univers et réapparaisse dans le grand. L'univers 647 commença donc à rendre sa matière au grand univers. D'après Intellectra, un petit univers n'avait pas de masse propre. Toutes celles dont elle était dotée avaient été puisées dans le grand univers. L'univers 647 faisait partie des plus petits univers parmi la centaine fabriqués par les Trisolariens. Il empruntait environ 500 000 tonnes de matière au grand univers, soit la capacité de chargement d'un grand navire pétrolier de l'ère commune. Cette masse était parfaitement insignifiante à l'échelle cosmique. Le transfert de matière commença par la Terre. Après la deuxième moisson, plus aucune graine ne fut semée dans le champ. La petite brouette utilisée par les robots pour le travail des champs fut dédiée au transport de la terre humide. Arrivés devant la porte, deux robots soulevaient la brouette et y renversaient la terre qui disparaissait aussitôt derrière le rectangle. Tout alla très vite. 3 jours plus tard, il n'y avait déjà plus un grain de terre dans le petit univers. Ce fut ensuite au tour des arbres qui bordaient la maison. Sous la terre qui avait été exhumée, se trouvait un plancher métallique. Celui-ci était composé de tôles de métal qui reflétaient comme des miroirs la lumière du soleil. Les robots les arrachèrent une par une et les jetèrent par la porte. Sous le sol de ce monde, Cheng Xin et Guan Yifan eurent la surprise de découvrir un petit vaisseau spatial. Il n'était long que d'une dizaine de mètres, mais il était équipé des technologies les plus avancées du monde trisolarien. Il avait été conçu pour embarquer des passagers humains et était doté d'une capacité de 3 places. Il était par ailleurs pourvu de 2 systèmes de propulsion, l'un par courbure et l'autre par fusion nucléaire, ainsi que d'un écosystème autorégénératif miniature et d'un équipement complet d'hibernation. À l'instar du Halo, il était en mesure d'atterrir et de décoller directement à la surface d'une planète. Son profil était fin et fuselé, sans doute pour pouvoir traverser sans peine la porte du petit univers. Le vaisseau avait été conçu pour permettre aux humains de l'univers 647 de rejoindre le nouvel univers. Il pourrait servir de base de longue durée jusqu'à ce que puisse être trouvé un environnement habitable. Mais il serait utilisé par Cheng Xin et Guan Yifan pour retourner dans leur univers d'origine. À mesure que la surface continuait de se dévoiler, elle révélait les mécanismes souterrains de l'univers 647. C'était la toute première fois que Cheng Xin et Guan Yifan observaient ici des objets de facture typiquement trisolarienne. Et comme Cheng Xin se l'était imaginé, ceux-ci étaient conçus selon des schémas bien différents de ceux des humains. Davantage que des machines, ils avaient l'impression d'avoir affaire à une pile de sculptures insolites ou à d'étranges formations géologiques. Les robots commencèrent à démonter ces mécanismes et à les jeter pièce par pièce à travers la porte. Pendant plusieurs jours, Cheng Xin et Intellectra restèrent cloîtrés dans la maison, refusant de laisser entrer Guan Yifan. Elles prétendirent qu'elles étaient occupées à un travail de femme et lui promirent qu'elles lui feraient la surprise plus tard. Après que le système d'alimentation d'une des machines souterraines fut coupé, la gravité disparut du petit univers et la Maison Blanche se retrouva à flotter dans les airs. Désormais en apesanteur, les robots démantelèrent ensuite le dôme céleste, une fine membrane projetant l'image d'un ciel bleu parsemé de nuages blancs. Les derniers morceaux restants du sol furent enlevés et renvoyés dans le grand univers. Libérée de toute contrainte, toute l'eau du petit univers s'évapora et un épais brouillard de vapeur se répandit partout dans ce petit monde, formant une brume scintillante sous la lumière du soleil. Derrière les nuages se dessina un arc-en-ciel coloré qui traversait horizontalement l'univers. L'eau encore en apesanteur prit l'apparence de sphères liquides de différentes tailles qui se mirent à planer autour de l'arc-en-ciel, reflétant et réfractant les rayons du soleil. Après le démontage des différentes machines, ce fut au tour de l'écosystème d'être désactivé. Cheng Xin et Guan Yifan durent enfiler leur combinaison spatiale. Intellectra modifia une nouvelle fois les paramètres de la porte pour qu'elle puisse laisser passer du gaz. Un bourdonnement retentit alors dans le petit univers, causé par l'air qui s'échappait par la porte. Sous l'arc-en-ciel, le brouillard blanc forma un grand vortex autour de la porte, comme un typhon vu depuis l'espace. Puis le tourbillon devint une tornade, et un hurlement strident fusa. Les sphères liquides flottantes furent aspirées par le cyclone et disparurent derrière la porte. Les innombrables objets planant en apesanteur furent eux aussi engloutis. Le soleil, la maison, le vaisseau et d'autres objets de grande taille s'envolèrent vers la porte, mais les robots, équipés de propulseurs, les empêchèrent de la traverser. Avec la progressive raréfaction de l'air, l'arc-en-ciel disparut, et le brouillard de vapeur se dissipa peu à peu. L'atmosphère devint plus translucide et peu à peu, l'espace du petit univers se dévoila. Comme l'espace du grand univers, il était noir et profond, mais ne comportait aucune étoile. Il ne resta bientôt plus que trois objets dans le petit univers, le soleil, la maison et le vaisseau spatial, ainsi que la dizaine de robots en apesanteur. Aux yeux de Cheng Xin, ce monde épuré ressemblait à un dessin maladroit qu'elle aurait pu réaliser, enfant. Cheng Xin et Guan Yifan allumèrent les propulseurs de leur combinaison et s'envolèrent vers les profondeurs de l'espace. Après 1 kilomètre environ, ils franchirent les frontières de l'univers et revinrent aussitôt à leur point de départ. Ils pouvaient voir dans l'espace les images de tous les éléments flottants de l'univers, dont les reflets étaient répétés à l'infini dans toutes les directions, comme des rangées d'objets se prolongeant sans fin dans deux miroirs placés en face l'un de l'autre. La maison fut rapidement démontée. La dernière pièce à être démantelée fut le petit salon de style oriental où Intellectra les avait reçus à leur arrivée. Les rouleaux de peinture et de calligraphie, la table à thé et l'ensemble des éléments qui composaient la maison furent rassemblés et poussés par les robots derrière la porte. Le soleil s'éteignit enfin. C'était une simple sphère métallique. L'hémisphère chargé d'émettre la lumière était transparent. Trois robots le projetèrent en entier à travers la porte. Désormais, seules quelques lampes éclairaient encore l'univers et le vide qu'était l'espace ne tarda pas à devenir glacial. Ce qui restait d'air et d'eau se transforma en cristaux de glace qui se mirent à étinceler sous la lueur des lampes. Suivant les instructions d'Intellectra, tous les robots se placèrent en rang et passèrent la porte l'un après l'autre. Il ne restait plus désormais dans le petit univers qu'un vaisseau longiligne et les trois individus qui flottaient près de l'appareil. Intellectra se saisit d'une boîte en métal qui renfermait ce qu'il s'apprêtait à laisser dans le petit univers, un message dans une bouteille destinée à rejoindre le nouvel univers. Le contenu de la boîte était composé d'un ordinateur miniature dont la mémoire quantique stockait toutes les informations de l'ordinateur du petit univers, soit tous les documents ayant trait à l'histoire des civilisations terriennes et trisolariennes. Une fois que serait né le nouvel univers, cette boîte recevrait un signal de la porte et pénétrerait à l'intérieur grâce au mini-propulseur dont elle était pourvue. Elle dériverait dans ce nouvel univers en attendant le jour où quelqu'un la trouverait et la lirait. Dans le même temps, elle ne cesserait de diffuser des signaux par faisceau de neutrinos en espérant que les neutrinos existent encore dans le nouvel univers. Cheng Xin et Guan Yifan étaient persuadés que les occupants des autres petits univers, du moins ceux qui avaient choisi de répondre à l'appel du mouvement du retour, agissaient comme eux. Si un nouvel univers venait à voir le jour, de nombreuses bouteilles du vieil univers y seraient envoyées. On pouvait croire qu'une bonne partie des messages contenus dans ces bouteilles renfermaient les souvenirs et les pensées de chaque individu de la civilisation concernée, ainsi que de l'ensemble de leurs détails biologiques, de sorte que les civilisations du nouvel univers puissent un jour, si elles le désiraient, restaurer ces anciennes civilisations. Pourrait-on laisser 5 kilos de plus ici ? Demanda Chang Xin. Elle se tenait de l'autre côté du vaisseau, vêtue de sa combinaison spatiale, une sphère transparente et brillante dans la main. Cette sphère faisait environ 50 centimètres de diamètre et plusieurs autres sphères liquides flottaient à l'intérieur. Certaines contenaient des poissons minuscules et d'autres de simples algues vertes. Deux autres sphères contenaient aussi deux continents miniatures, recouverts de prairies. La lumière qui les éclairait provenait du sommet de la grande sphère où avait été installé un petit objet lumineux, le soleil de ce mini-univers. C'était un écosystème complet et clos, le résultat de plus d'une dizaine de journées de travail accomplies par Chang Xin et Intellectra. Tant que le soleil continuerait à illuminer l'écosystème, celui-ci pourrait se maintenir et, tant que cette sphère demeurerait ici, l'univers 647 ne serait pas un monde obscur et sans vie. Bien sûr, l'effondrement terminal de l'univers n'échouera pas à cause de ces 5 kilos, déclara Guan Yifan. Il aurait voulu ajouter quelque chose, mais il se retint. Il était en réalité possible que le grand univers passe de clos à ouvert à cause de la masse d'un seul atome. Le degré de précision de la nature défiait l'imagination. L'apparition de la vie nécessitait la combinaison parfaite de plusieurs constantes universelles, dont la précision était de l'ordre du milliardième de milliardième. Mais Chang Xin était en droit de laisser cette sphère écologique ici. Après tout, il était certain qu'une bonne partie des petits univers créés par les innombrables civilisations du grand univers avait choisi d'ignorer l'appel du mouvement du retour. La masse totale dérobée au grand univers serait sûrement de plusieurs centaines de millions de tonnes, ou bien peut-être 100 millions de milliards de tonnes. Il fallait espérer qu'une telle perte puisse être négligeable pour l'univers. Chang Xin et Guan Yifan entrèrent dans le vaisseau suivis d'Intellectra. Elle ne portait plus son magnifique kimono. Elle avait revêtu son treillis militaire, redevenant cette combattante aux gestes précis et fatal. Elle avait sanglé son corps de plusieurs armes et accessoires de survie, mais c'était surtout le sabre de samouraï qu'elle portait dans son dos qui attirait le regard. « Ne craignez rien, » glissa-t-elle à ses deux amis humains. « Tant que je serai là, personne ne vous fera de mal. » Le moteur à fusion fut activé, et les propulseurs de l'appareil émirent une lumière bleu sombre. Le petit vaisseau franchit lentement la porte de l'univers 647. Il ne restait plus dans le petit univers qu'un message dans une bouteille et une petite sphère écologique. La bouteille se retrouva bientôt engloutie par l'obscurité. La seule parcelle de clarté de cet univers d'1 km³ provenait du soleil miniature de la sphère. Dans ce minuscule monde vivant, des sphères d'eau claire ondoyaient paisiblement en apesanteur. Un petit poisson bondit de l'une d'entre elles jusqu'à une autre sphère et remua gracieusement des nageoires entre des algues vertes. Sur l'un des deux continents, une goutte de rosée se détacha d'un brin d'herbe et s'envola en spirale dans les airs, réfractant dans l'espace un scintillant rayon de soleil.